nation qui ne connaît plus la fidélité. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, les gens, ils changent de travail comme on change de chaussettes. Ils changent d'avis sur tout, et c'est constant. On peut regarder qu'on change de téléphone tous les combien de temps maintenant? Il y en a tous les ans, ils changent de téléphone, pourtant ils ont des téléphones neufs. Mais ils vont changer. Tous les deux ans, pour certains qui sont un peu plus malins et qui arrivent à avoir des réductions. Les gens changent également sur toutes les choses qui peuvent changer le plus tôt possible. Société de consommation. Et la fidélité a disparu. Je pense que si aujourd'hui, on te demandait aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensent de la fidélité, je parle des jeunes dans le monde, les gens dans le monde, ils diraient que c'est quelque chose qui est démodé, qui n'est plus d'actualité. Demandez à un jeune aujourd'hui qui rentre dans une entreprise, qui a 22, 23 ans, est-ce que tu comptes faire carrière dans ton entreprise? Il va te rire au nez. Il va te dire, mais tu rigoles, je vais aller négocier à droite à gauche pour avoir mieux. Et même si son entreprise est bonne, et son entreprise l'a béni, entre guillemets, l'a aidé à se sortir de là où il était, il n'y a pas de fidélité aujourd'hui. C'est des choses qui ne comptent plus. Non, je négocierai, j'irai ailleurs pour un salaire meilleur. Nous sommes une génération qui aime faire des affaires. Et pour ça, la fidélité est devenue, excusez-moi, périmée dans notre société. Moi, je me rappelle un jour, je parlais avec quelqu'un. Et cette personne me dit « Oh, t'es marié et tout ça !» Et pourtant, je ne me suis pas marié tôt. Avec la vie que j'ai eue, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous témoigner, j'ai eu une vie très particulière, j'ai accepté le Seigneur très tard et j'ai réglé ma vie à 28 ans. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas forcément si tard que ça, quand on voit les générations qui se marient de plus en plus tard ou qui ne se marient plus d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai voulu régler ma vie. Et puis, il y a une personne qui vient et qui me dit « Oh, tu t'es marié !» Mais t'es ringard! Pardon. J'ai essayé de ne pas tout casser. Voilà. Et puis, ce jeune me dit, t'es ringard. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais tu ne vas pas rester avec une seule personne toute ta vie. Et je dis, ben si, pourquoi? Il dit, mais il faut essayer, il faut tester, il faut même aller voir le sexe opposé. Vous savez, ce jeune-là, il me dit ça, il sait que je suis pasteur. Je crois qu'il n'a pas compris le mode de fonctionnement d'un pasteur. Le pasteur a fait alliance avec Dieu. Il sert Dieu, il est fidèle au Seigneur. C'est important, tout comme le chrétien. Bien sûr que ça m'a surpris. Ça m'a surpris de voir que beaucoup de personnes pensent ça en échangeant avec les gens dans la rue pour ceux qui aiment témoigner. Et je pense que c'est intéressant. Normalement, tous les chrétiens devraient témoigner. Vous allez échanger avec les gens et souvent... Quand vous posez des questions sur mais qu'est-ce que vous pensez du mariage, qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là, les gens vont vous dire mais ça sert à quoi de se marier aujourd'hui? On ne sait pas si on va rester avec la personne et puis voilà, il faut essayer avant de trouver le bon, etc. Cette notion de fidélité est devenue obsolète dans notre génération. Est-ce qu'il en est de même dans les églises? Est-ce que dans les églises la fidélité est devenue obsolète? On voit parfois dans nos belles églises que la fidélité, pareil, peut devenir rare. Il suffit qu'un pasteur ait un message un petit peu trop dur pour que le chrétien prenne la poudre aux escampettes. Il suffit qu'il n'ait pas un message assez bénissant. Vous savez, on aime tellement prêcher sur l'amour, 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 et on ne prêche plus que sur l'amour que quand le pasteur vient prêcher sur la justice, sur la sainteté, la sanctification, toutes ces choses-là. C'est des choses qui peuvent parfois déranger, et les chrétiens vont changer d'église. Ou alors même, le pasteur n'est pas assez spirituel. Vous savez, il ne fait pas tomber les gens par terre, un peu partout. Comme c'est cette nouvelle mode aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas comme ça ici. Hein. Sinon, la poudre d'escampette. Non, je connais Stéphane et je sais qu'il est droit, il aime Dieu, il aime le Seigneur, il aime sa parole. Et il est fidèle à sa parole. C'est important, la parole du Seigneur. Et parfois, les chrétiens s'amusent à quitter les églises aussi parce qu'ils sont rentrés dans cette génération et cette génération a affecté. C'est imprégné parfois dans le cœur de certains chrétiens qui n'arrivent plus même pas à être fidèles aux assemblées dans lesquelles ils se trouvent. Dieu cherche des chrétiens stables. Il cherche des chrétiens qui ont un cœur fidèle, enraciné et constant. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est dit « Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ce matin, c'est une question qu'on doit se poser tous en tant que chrétiens. Est-ce que notre cœur est tout entier au Seigneur ? Est-ce que nous sommes stables et fidèles ? C'est une question importante. Parce qu'on voit que Job, lui, il incarnait cette fidélité à Dieu. La fidélité face à l'épreuve. Job était un homme irréprochable, intègre. D'ailleurs, c'est assez surprenant, mais moi j'aimerais que Dieu puisse parler de moi en disant « Regarde mon serviteur ici, comment il est fidèle et intègre !» Ça ne serait pas merveilleux que Dieu parle de nous de cette façon-là ? La Bible nous dit que Dieu a parlé comme ça de Job. Dans Job, chapitre 1, verset 8, Dieu va dire « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Impressionnant. Le regard de Dieu est sur Job et c'est un regard favorable. Et en quelques minutes, on vient de le lire, toute la vie de Job va s'effondrer. Quelle catastrophe ! On le regarde, l'épreuve, elle va être en plus grandissante. Job va commencer par perdre ses bœufs, ses moutons. J'ai envie de dire son travail aujourd'hui. Tout ce qu'il a construit s'effondre en quelques secondes. Il y a quelqu'un qui vient lui dire « Attention, là, tes bœufs, là, c'est terminé. Tes brebis, là aussi, c'est terminé. Et puis tes chameaux, c'est terminé. Tout ce que Job a construit vient de disparaître en fumée. » Et ce matin, peut-être que certains vivent des choses très particulières, mais j'aimerais que vous puissiez imaginer que peut-être que certains ici sont en train de construire une carrière depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et vous avez construit de belles choses, vous avez peut-être des appartements, des choses qui sont bien, qui vous permettent de vivre correctement. Il n'y a rien de mal à ça. Mais imaginez-vous qu'en un instant, tout ça disparaisse. En un instant, tu perds tout ce que tu as pu construire dans la vie. Ça arrive, hélas. Mais ça arrive. Job ne va même pas murmurer contre Dieu. Est-ce que toi, ce matin, tu pourrais vivre la même chose si tout s'effondrait autour de toi, si tout ce que tu avais construit, tu perds ton travail, tu perds tous tes acquis, tes biens sociaux, parce qu'on est en France ici, quand même, on est bien, encore pour le moment, combien de temps, Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, en France, on a encore des choses, on peut aller se soigner gratuitement, on vit des choses quand même qui nous permettent d'être dans un bon pays. Mais imaginez que la France devienne le tiers-monde demain, parce que c'est la direction qu'a l'air de prendre la France. Si on continue comme ça, quand on entend les politiciens et les spécialistes, ils disent que si on continue dans cette ligne, la France va devenir le tiers-monde. Mais comment tu te comporterais si tout s'effondrait autour de toi financièrement? Est-ce que tu murmurerais contre Dieu? Est-ce que tu dirais au Seigneur, mais pourquoi tout ça m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous connaissez ce film? Est-ce que tu te plaindrais devant Dieu en disant, mais j'ai tout perdu, je ne comprends pas. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ces choses-là? Ou alors tu serais comme Job? Tu placerais ton regard devant Dieu et tu le louerais quand même. Pas un seul murmure qui sort de la bouche de Job. Quel homme de Dieu ! Quel exemple ! Quel témoignage ! Comment te situerais-tu face à la perte de toutes ces choses-là ? Forcément, la crainte. Il y a des choses qui sont bouleversantes. Je ne suis pas en train de vous dire que Job, il était tranquille et non, tout va bien. Mais il n'a pas murmuré contre Dieu. Il n'a pas mis ça sur le compte de Dieu. Il est resté fidèle malgré la perte de son travail. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas le chômage. Hein. T'as tout perdu, assurance chômage. Ici, en France, c'est vraiment bien. Quand il se passe quelque chose, t'as des sécurités derrière. Job, la perte de tout ça, ça signifie que tu ne vas plus manger. T'as plus rien. Tu vas te débrouiller, Job. Tu vas marcher par la foi. C'est ce que ça signifie à cette époque-là dans le pays de Job. Tu perds tout, bah tu ne vas pas pouvoir manger. Job reste fidèle et droit devant Dieu. Il le loue. Vous savez, J'ai un jeune, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, je l'ai entendu, hélas. Moi, j'ai un jeune qui travaillait, il venait de se convertir il y a quelque temps, et il était bouillant pour le Seigneur. Il était dans une autre église, une église où j'étais avant, et puis il passait son temps à aller en ville, à témoigner. Il parlait de ce que Jésus avait fait dans son cœur, dans sa vie, le bouleversement que ça avait opéré. Et puis, il y allait seul. Et moi, il m'impressionnait, ce jeune. Je me disais, il passe sa vie à aller témoigner dans les rues. Il passait ses samedis à aller parler de Jésus, à distribuer des Bibles. Il était toujours en train de me dire, « Laurie, t'as pas un carton de Bible pour moi ?»« Laurie, t'as pas... » C'était un ancien joueur professionnel de rugby. Et il a décidé d'abandonner ça pour servir Dieu. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Il avait une carrière quand même pas mal. Hein. Pro de rugby, t'es bien quand même. Non, lui, il voulait servir Dieu. Le Seigneur lui a dit, si tu continues dans cette voie-là, tu t'effondreras. Tu te détourneras de moi. Donc, il avait reçu ça. Il a tout lâché. Il a servi Dieu. Trouvé, du coup, un petit travail à côté où il était auprès des gens. Il allait, il faisait les ménages chez les gens, il les aidait, etc. Et puis, il parlait de Dieu. Il ne pouvait pas s'empêcher. Et il vient me voir un jour, il me dit, Laurie, c'est compliqué parce que là, j'ai été convoqué par la direction et je pense que c'est parce que je parle trop du Seigneur. Je lui dis, mais quand tu vas chez les gens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu parles du Seigneur? Ils te disent de te taire et tout? Non, parce que j'ai parlé au départ à peine. Mais c'est eux qui me redemandaient de parler de Dieu. Ils étaient intéressés, ils me demandaient de prier pour eux. Mais un collègue de travail est venu et l'a menacé. Il a dit, si je continue à parler de Dieu, je vais te dénoncer. Lui, dans son cœur, il s'est dit, non, il faut que les gens entendent parler du Seigneur. Alors peut-être un manque de sagesse, je ne sais pas. Mais il était convaincu qu'il fallait qu'il le fasse. Il l'a fait. Il a perdu son travail. Il a été menacé. Et il a tout perdu. Tout perdu parce qu'il partageait sa foi. Vous savez, dans la Bible, on nous parle souvent de personnes qui ont été persécutées à cause du nom de Jésus. L'église de Smyrne, dans Apocalypse chapitre 2, pour ceux qui connaissent un petit peu cette église, c'est l'église de la persécution. Dans les sept lettres aux sept églises. Et puis Smyrne, c'est une ville où il y avait une grande persécution sur les chrétiens. Ça, c'est quand on fait un peu de recherche dans l'histoire, on se rend compte que cette ville, il était très mauvais d'être chrétien. Quand les gens savaient que tu étais chrétien, ils ne te donnaient pas de travail. Tu étais voué à être dans cette ville et à ne pas pouvoir te nourrir. Parce qu'à l'époque, toujours pareil, c'est pas la France. C'est pas tout ce qu'il y a de social est bon pour nous aujourd'hui. À cette époque-là, tu n'as pas de travail, tu ne manges pas. Et ce qui se passait, c'est que, historiquement, les historiens disent que certains étaient obligés de se rendre esclaves. Esclaves pour pouvoir se nourrir. Ça veut dire que tu étais là avec tes enfants, tu savais que si tu étais chrétien, tu n'allais pas avoir de travail. Alors, ils allaient et ils ne voulaient pas renier leur foi. Et le seul moyen de pouvoir se nourrir et nourrir leur famille, c'était de devenir esclave de certaines personnes qui les maltraitaient, qui profitaient d'eux. Je pense que aujourd'hui, dans certains pays encore, et là je parle à une église, je pense qu'elle est convaincue, vous avez un pasteur qui est là, qui appartient à l'AEP, dans combien de pays être chrétien nous amène à une persécution, à vivre des choses difficiles, à tout perdre. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, on échangeait avec des églises corses, et puis il y avait la Sardaigne, c'est une île à côté. Et puis moi, je me suis dit, en Europe, on est tranquille quand même. Et puis il y a un pasteur là-bas qui dit, mais vous savez, quand vous dites que vous êtes chrétien évangélique, vous pouvez vous faire virer de votre logement. Oui, vous pouvez perdre votre travail, parce que là-bas, c'est le catholicisme seulement qui doit régner, et le fait de vouloir vivre sa vie librement, sa foi librement en tant qu'évangélique, nous amène à une forme de persécution. C'est juste à côté de chez nous. C'est pas loin. J'ai été surpris d'entendre ça. Je savais pas que ça pouvait arriver, moi, ici, sur une île européenne. La fidélité, c'est de tenir ferme, même quand on risque de tout perdre. C'est de rester fidèle comme Job. Peu importe ce qui vient d'arriver sur Job actuellement, il reste droit et fidèle au Seigneur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir perdu son travail, tous ses acquis, ce texte nous dit que Job a perdu ses enfants. Waouh ! Seigneur, qu'est-ce que... Vous savez, j'ai été invité par des gens, franchement, je te remercie Stéphane de m'avoir fait loger chez un couple merveilleux. et on échangeait. Et je voyais à travers les épreuves qu'ils avaient vécues une fidélité au Seigneur. Alors que moi, j'avais déjà préparé cette pensée, je l'avais eue sur le cœur cette semaine. En fait, j'étais en train de vivre à travers leurs témoignages tout ce que Job était en train de vivre. Et je voyais une famille fidèle qui aimait le Seigneur. Malgré tout ce qui s'est passé, ils ont tenu bon, ils ont tenu ferme. Ils sont un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Job, il apprend que ses enfants sont morts. Le drame absolu. Je pense qu'il n'y a pas plus grande souffrance que de perdre un enfant. Job se leva, il déchira son manteau, il se rasa la tête, se jeta par terre et il se prosterna devant Dieu. Vous imaginez que là, il vient de vivre quelque chose d'horrible, de bouleversant, qui va affecter sa vie jusqu'à la fin de sa vie, il y pensera. Et pourtant, Job va se tenir debout, il va se placer devant Dieu, il va parler à Dieu. Quel exemple! Il n'a pas maudit Dieu. À la place de maudire Dieu, il s'est prosterné devant Dieu. Il l'a adoré. Aujourd'hui encore, on a des familles qui sont brisées, qui vivent des deuils. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, justement tirée de ce texte de la Bible. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais que son nom soit béni. Vous connaissez l'histoire de cette chanson ? Ce couple avait perdu un enfant. C'est triste, hein ? Et quelques mois, quelques années après, ils ont décidé de chanter, de glorifier Dieu quand même. Parce que leur foi ne dépendait pas, même de ce que Dieu avait pu leur donner, leur propre enfant. Ils sont restés fidèles, ils ont glorifié Dieu. Chanson magnifique. Mais quand on sait le prix qu'ont payé les parents, elle a encore plus de sens. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Quelle foi, hein, Kevin, mon frère, quelle foi exceptionnelle de Job. Quel exemple et quel témoignage. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il perd son travail, il perd sa famille et maintenant sa santé. Il va être attaqué dans sa santé. Des ulcères au point où ça le ronge, il va se gratter avec des tessons, ça va être quelque chose d'horrible. Job est sans doute en train de se dire « Mais je vais finir par mourir, c'est pas possible !» C'est pas possible. Je perds pour commencer tout ce que j'ai, mon travail, mes serviteurs, mes biens, tout ce que j'avais acquis. Je perds mes enfants. Et maintenant, je suis même attaqué dans ma santé. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous, aujourd'hui, on a envie de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais Seigneur, pourquoi il m'arrive tout ça? Combien d'entre nous lèveraient les mains contre Dieu? L'autre jour, j'étais en train de parler à quelqu'un et on échangeait. Et puis, elle était en instance de divorce. C'est une personne qui n'était pas de notre église, qui vient d'arriver, qui découvre le Seigneur. Et puis, elle me dit, oui, je crois en Dieu, j'ai la foi, c'est bon. Je dis, c'est bien. Elle dit, je sais que le Seigneur va restaurer mon couple. Je dis, ok, tu l'as reçu, c'est possible. Et je lui pose cette question à tout hasard. Mais si Dieu ne restaure pas ton couple, si Dieu ne te ramène pas ton mari, et là, elle me dit, je ne croirai plus en Dieu. Je lui ai dit, mais tu te trompes. Tu es en train de baser ta foi sur tes émotions, sur les circonstances, sur les choses qui sont externes à ta vie. J'ai dit, tu ne devrais pas faire ça. Ta foi doit dépendre de Dieu uniquement et de sa parole. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est important que notre foi ne dépende pas des circonstances, même pas de notre propre vie. Dieu a donné, Dieu a repris. Mes frères et mes sœurs, à quel point il est important, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, de baser notre foi sur Dieu seulement, pas sur ses bénédictions. On a un Dieu qui bénit, il n'y a pas de souci. On a un Dieu qui guérit, il n'y a pas de souci. Mais notre foi ne doit pas dépendre de ce que Dieu donne ou pas. Parce que sinon, quand Dieu a décidé, parce qu'il est souverain, de ne pas donner ou de reprendre, alors notre foi va s'écrouler. S'écrouler comme un château de cartes. Job reste fidèle. Malgré tout ça, malgré la perte de sa santé, malgré tout ce qu'il a vécu, il a décidé de faire confiance à Dieu. Sa foi ne dépendait pas de tout ce que Dieu pouvait lui donner ou pas, mais seulement de Dieu, uniquement de Dieu. Non pas des bénédictions de Dieu, mais du Dieu de la bénédiction. C'est bien différent. Et combien aujourd'hui s'attachent à Dieu pour ce que Dieu peut leur donner ? Combien de personnes entrent dans les églises et espèrent recevoir de Dieu alors que Dieu a déjà tout donné, il a déjà payé le prix, et le prix fort. On l'a chanté ce matin, Jésus a donné sa vie sur la croix. Vous croyez que ce n'est pas suffisant ? Paul avait compris ça aussi dans la Bible, dans Actes chapitre 20, verset 24. « Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Être fidèle, ça ne nous empêchera pas de souffrir. Mais être fidèle, ça nous empêchera de renier Dieu dans la souffrance. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Nous devons rester fidèles, peu importe l'épreuve qui s'abat sur nos vies. Peu importe tout ce qui y arrivera. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Polycarpe. Ça dit quelque chose, Polycarpe, à quelqu'un ? Polycarpe, c'est toujours dans cette ville de Smyrne. Polycarpe était un chrétien qui partageait sa foi dans cette ville où les chrétiens étaient persécutés. Et il arrivait à un moment où en fait, il a refusé de se prosterner devant la statue de l'empereur. À l'époque, vous savez, dans certaines villes de l'Empire romain, on devait se prosterner devant l'empereur romain, devant sa statue. Et lui, il a refusé. Donc, ils l'ont attrapé et ils l'ont mis devant un bûcher. Ils ont dit, écoute, Polycarpe, si jamais tu ne renies pas ton Dieu, tu vas brûler. On va te tuer, ça va être fini de toi. Donc, renie ton Dieu, prosterne-toi devant la statue de l'empereur romain. Polycarpe avait compris que perdre sa vie, c'était rien face à l'éternité. Polycarpe avait compris que sa foi ne devait pas dépendre de sa propre vie ou de ses acquis, et il avait compris tout ça. Il vivait dans cette ville de la persécution. Et Polycarpe a été jusqu'au bout, et il est devenu un martyr. Il a été brûlé sur ce bûcher pour sa foi. Il savait que son espérance n'était pas de cette terre. Son espérance se trouvait dans l'éternité auprès de Jésus-Christ, auprès de Dieu. Et Polycarpe a perdu la vie ce jour-là, pour sa foi, parce qu'il avait décidé d'aller jusqu'au bout. Ce matin, c'est une question qu'on doit se poser, parce qu'aujourd'hui, on est bien tranquille en France. Enfin, ça commence à chauffer progressivement. Mais aujourd'hui, on peut continuer à avoir notre foi et la vivre librement. Vous savez, moi, je me balade souvent dans la ville de Nice. J'ai des t-shirts, il y a une croix, j'ai des choses, un t-shirt, vous savez, comme mon téléphone, en vert et en rouge ici, yes, no, Jésus t'appelle. Donc, tu vois, les gens, ils sont interpellés par mes vêtements. Souvent, les gens me posent des questions. J'ai trouvé un moyen d'évangéliser simplement. Je ne parle pas, ils voient mes vêtements, ils disent, oh ! Et les curieux viennent me parler. Et des gens m'abordent et je leur parle de Jésus, de ma foi, par rapport à mon style vestimentaire. Je vous assure que si vous faites ça en Afghanistan, en Irak ou dans certains autres pays, tu mets ton t-shirt en quelques secondes, c'est terminé. En France, nous pouvons encore le faire. Et ce qui est surprenant, c'est que dans ces pays persécutés, l'évangile avance au péril de leur vie. Et nous, en France, nous qui sommes libres d'ouvrir la bouche et de propager le nom de Jésus librement, plus ou moins librement quand même, encore aujourd'hui. Moi, dans la rue, je n'ai jamais été embêté. Un jour, j'étais à Orléans, on avait pris une place, c'est vrai, et on avait évangélisé sur cette place, on avait des enceintes, des choses comme ça. Et la police est venue nous voir. Et puis, ce n'est pas moi qui avais organisé ça. Moi, je pensais qu'ils avaient fait ça en bonne et due forme. Ils avaient fait les demandes et tout ça. Puis la police arrive, oui. Voilà, vous dérangez des gens parce que vous partagez votre foi, vous avez l'autorisation. Puis moi, je dis aux policiers, bah, oui, c'est un événement qui a été organisé. Et il dit, vous pouvez me montrer l'autorisation. Alors moi, un peu naïvement, j'appelle les gars qui avaient organisé ça avec les pasteurs de l'église. Je dis, mais alors, t'as les autorisations? Et là, le gars, il regarde comme ça, il fait, en fait, on a oublié de te dire qu'il n'y avait pas l'autorisation. Moi, j'étais stagiaire. Lui, il avait vu ça avec le pasteur. Alors, je retourne voir la police. Et là, je dis, je vous demande pardon. Moi, je pensais que c'était bon, mais en fait, c'est pas bon. Policiers, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont dit, bon, faites-le discrètement. Voilà, parlez un peu moins fort. Restez là, on ne vous fera pas de problème aujourd'hui. Waouh, merci Seigneur. Mais en Afghanistan, ça n'aurait pas été le cas. Il serait venu, je ne serais plus de ce monde. Vous comprenez? Notre foi, nous devons la propager. Comme Polycarpe, comme Paul, comme les apôtres, même au péril de notre vie, nous devons rester fidèles au Seigneur, fidèles à sa parole et faire l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Propager le nom de celui qui nous a sauvés. Fonder. Pourquoi? Pourquoi Job a-t-il été validé par Dieu? Parce que sa foi était fondée sur Dieu, ancrée profondément, enracinée. Alors que ses amis vont venir l'accuser, alors que sa femme va lui dire « Mais maudit Dieu et meurt !» Il va rester fidèle, attaché au Seigneur. Il va dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant !» On ne pouvait pas dire à Job de renier Dieu. Il avait compris, son espérance était placée en Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui sauve. Et Job le savait, il aimait Dieu, et c'était hors de question de renier ce Dieu merveilleux. Malgré tout ce qu'il avait vécu, malgré les épreuves douloureuses, la foi de Job était basée sur ce Dieu vivant. Et il savait que Dieu pouvait lui rendre encore, même plus encore, il le savait. Mais ce n'est pas parce qu'il savait que Dieu ou pas, il ne se disait pas, c'est pas grave, je vis ça, Dieu va me rendre encore plus. Ce qui s'est passé, c'est que sa foi était placé en Dieu parce qu'il était Dieu, parce qu'il était le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui avait créé Job. Job le savait. Et sa foi ne dépendait même pas de « est-ce que Dieu va me rendre ou pas ?» Combien de fois j'entends les gens dire « bon, moi je donne la dîme parce que je sais que Dieu va me rendre au centuple. » Ce n'est pas la bonne raison. Donne à Dieu tout simplement. J'ai même envie de dire « rends à Dieu ». C'est Dieu qui nous donne. Rendons-lui, soyons heureux de lui rendre. Vous comprenez? On ne va pas donner à Dieu parce qu'il va nous donner au centuple. Parce que quand Dieu ne vous donnera pas au centuple de la façon dont vous, vous espérez, parce que je dis, oh, je donne 10 euros multiplié par 100, waouh, je vais recevoir 1000 euros demain. Je vais à la banque, je fais un crédit, je donne 100 000 euros à Dieu. Et là, je suis millionnaire après. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Nous sommes devant Dieu, celui qui a déjà donné Jésus-Christ son Fils. Et rien que pour ça, nous devons lui rester fidèles. Notre foi est basée sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que notre foi est basée sur Jésus-Christ. Je l'espère en tout cas pour chacun d'entre vous que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Non pas sur ce que Jésus peut vous donner ou pas. Sur les guérisons, et Jésus guérit. On a échangé hier, on a des témoignages. Jésus guérit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais notre foi ne doit pas dépendre des guérisons que Jésus peut nous donner ou pas. De l'argent qu'il peut nous donner, de notre bonne santé, etc. Notre foi doit être basée sur la personne de Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix. Il est monté sur une croix un jour, et son sang a coulé parce que nous étions des pécheurs. Le but de Jésus, c'était de mourir à la croix, de porter notre péché, de rendre le péché inefficace pour tous ceux qui croiraient en lui. Que nous puissions vivre en lui, vivre par lui et vivre pour lui. Mes frères et mes sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que notre foi doit être fondée sur Jésus-Christ et sur sa parole. Jésus dira dans Matthieu au chapitre 7, au verset 24, « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » La foi en Jésus-Christ ne nous empêche pas de subir toutes sortes de tempêtes. Ça, c'est un évangile à l'eau de rose. Tu seras béni, tu ne seras jamais malade, et puis tu seras... C'est faux. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit « Ok, place ta foi sur le roc, sur moi, sur ma parole, sur mes enseignements. Et quand la tempête va venir, parce qu'elle va venir cette tempête, les épreuves seront là, nous serons éprouvés. Alors quand les tempêtes viendront s'abattre sur ta maison, vu qu'elle est fondée sur le roc, sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ lui-même, alors ta maison, elle ne s'écroulera pas. Mais si ta foi, elle est basée sur autre chose. Et Jésus continue ce texte et dit, alors tu es comme un fou, tu es un insensé qui a bâti ta maison sur le sable. Parce que la tempête soufflera sur toi également. Elle va venir, cette tempête. Mais ta maison va s'écrouler, elle va s'effondrer et grand sera ton malheur. C'est ce que Jésus dit. Alors, si tu t'attaches aux choses que Dieu peut te donner plutôt qu'à Dieu, ça veut dire que tu construis ta maison sur le sable. Et quand l'heure de l'épreuve viendra sur le monde ou sur ta vie, tu t'écrouleras, tu ne comprendras pas et tu abandonneras tout parce que ta fondation n'était pas solide, ce n'était pas Christ, ce n'était pas la parole de Dieu. Et Job, sa fondation était Dieu. Et nous, notre fondation aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous devons baser toute notre foi en Jésus-Christ et sur sa parole et sur rien d'autre. La Bible est la seule vérité. Jésus dira, ta parole est la vérité. Ta vérité nous sanctifie. Et si nous prenons des choses qui sont en dehors de la Bible, libre à chacun. Mais derrière, tu ne pourras pas venir pleurer et remettre ça sur la faute de Dieu. La parole est claire, nous allons vivre des choses difficiles sur cette terre. Jésus a dit, je suis persécuté, vous serez persécuté. J'ai été haï, vous serez haï à cause de mon nom. C'est ce que Jésus promet à chacun d'entre nous. Il ne nous dit pas, tu vas avoir une vie magnifique, extérieurement parlant, selon le monde. Par contre, intérieurement, à l'intérieur, nous avons une paix. Une paix que le monde ne connaît pas, une paix que le monde n'a pas, parce que le monde n'a pas la fondation qui est Jésus-Christ et sa parole. Par contre, Jésus nous a laissé une promesse lors des épreuves, lors des tempêtes, c'est de dire « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Jésus est là dans notre tempête, il est là dans notre barque quand ça souffle. Et même si parfois tu ne l'entends pas, même si parfois tu ne le vois pas, comme Job qui était là, qui subit toutes ces choses-là, et Dieu est quand même présent. Dieu veille sur nous. Il veille sur notre âme. C'est quoi le plus important ? Que tu vives et que ton âme soit perdue ? Ou que ton âme soit sauvée et que tu meurs ? Quel est le plus important ? C'est quoi le curseur de priorité pour toi ? Moi, c'est l'éternité. Moi, c'est le salut de mon âme. Le reste, excusez-moi de le dire, c'est peut-être brutal, mais c'est secondaire. Ils avaient compris, tous ces hommes de Dieu dans la Bible, que le salut était leur priorité. Que vivre pour Jésus-Christ était leur priorité. Que de rester fidèle, même jusqu'à la mort, parce que c'est ce qui va être dit, reste fidèle même jusqu'à la mort à l'église de Smyrne. Et tu recevras la couronne de vie. Est-ce que ce matin, ton but est de recevoir cette couronne de vie ou d'avoir une vie bien réglée sur la terre, une belle maison, une belle voiture? C'est un choix. J'aime souvent parler de choix dans mes messages. Avec Dieu, il y a toujours un choix à faire. Le choix de rester fidèle. Job l'a choisi, ce choix. Il a fait ce choix. Ou alors de dire, waouh, c'est trop dur et je vais baisser les bras. Mes frères et mes sœurs, la vie sans Jésus-Christ est plus dure que la vie avec Jésus-Christ. Parce que vous savez, une vie sans espoir, c'est horrible. Il y a un chanteur qui disait, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Il s'est juste trompé d'amour. La vie ne vaut d'être vécue sans l'amour de Dieu. Et l'éternité, c'est pareil. Vous savez, moi je ne prendrai pas le risque. Depuis que je connais Jésus, depuis que je lui ai donné toute ma vie, je vous assure que mon seul objectif dans la vie, c'est de plaire à Dieu. Alors, je n'y arrive pas tout le temps. Vous savez, je suis à moitié breton, à moitié guinéen. C'est un mélange explosif. Voilà, les deux sont à l'ouest. Voilà, ça aussi, c'est fait. Mais les deux ont une forte personnalité, un fort tempérament. Mais une chose est sûre, quand Dieu me parle, j'incline mon cœur et je me soumets. Il n'y a rien de mieux à faire. La vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est pas vrai. La vie sera remplie d'épreuves, de tempêtes, de choses douloureuses. J'ai perdu mon cousin à 30 ans. On était comme deux frères, on a grandi ensemble. On était tout le temps ensemble. Et puis, à l'âge de 30 ans, moi, à 27 ans, je rencontre le Seigneur. Et je parlais à mon cousin tout le temps, je dis, écoute, quand je vois, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu mettes ta vie en règle. Regarde-moi comment je suis heureux. Lui, il était rempli encore d'addictions, drogue, alcool. C'était compliqué pour lui. On avait été ensemble dans ces bêtises-là. Moi aussi, j'avais eu les mêmes addictions que lui. Mais le jour où quelqu'un a prié pour moi, j'ai été délivré totalement des addictions. Totalement. J'ai été libéré de toutes ces choses-là. Mais lui n'a pas suivi. Et à 30 ans, un mois avant sa mort, il accepte Jésus. Enfin, on avait prié, c'était... Franchement, il était en train de se détruire et tout ça. Et puis, il luttait avec ses addictions. Et il tenait, mais c'était une lutte. Ce n'était pas comme moi qui avait été délivré instantanément. Mais il avait décidé de rester fidèle. C'était compliqué pour lui. Et un mois après, il ne se réveille pas, son cœur a lâché. 30 ans, il laisse un enfant derrière lui. On n'a pas tout compris. Mais ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, il était sauvé. Je savais qu'il était sauvé. L'autopsie a été faite, il n'était pas retombé, pas de drogue, rien. Juste son cœur, après tout ce qu'il avait subi, avait lâché. Mais moi, je savais qu'il était sauvé. J'étais heureux parce qu'on s'appelait les soirs quand il souffrait, des fois quand il était dans une grande lutte. Laurie, viens, prie avec moi, s'il te plaît. On priait par téléphone, c'était des temps difficiles. Quand il est mort, j'aurais pu dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait ? Seigneur, c'est quoi ? C'était comme mon frère, c'était mon cousin. Mais il venait de se convertir, pourquoi tu n'as pas fait comme moi ? J'aurais pu lever le poing contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es souverain, et toi tu sais les choses que moi je ne sais pas. Tu connais. Et quelques mois après, voilà, j'ai eu cette conviction qu'il avait été repris pour être sauvé. Parce qu'il était tellement fragile que sans doute il n'aurait peut-être pas tenu. Et de toute façon, j'ai dit, Seigneur, c'est entre tes mains, tu es juste. Et je n'ai pas à remettre en question ce que tu as fait. Dans ce texte-là, quand même, de Job, sa fidélité a été récompensée. Je ne dis pas qu'être fidèle, vous serez récompensé forcément sur cette terre. Mais un jour ou l'autre, nous serons récompensés. Job, au chapitre 42, a dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Dieu ne récompense pas la performance. C'est faux. Il récompense la fidélité. Et on retrouve ce principe à travers la Bible dans plusieurs textes. Matthieu chapitre 25, verset 21. « Et j'ai hâte à ce jour glorieux où le Seigneur viendra et nous dira « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Ce matin, je voudrais encourager l'Église à rechercher la fidélité. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont du mal à être fidèles quand l'épreuve est là, c'est difficile. Tu as envie de baisser les bras, tu as envie de lâcher, souvent tu t'écroules, etc. Un jour, tu seras récompensé. Un jour, si tu restes fidèle, Jésus viendra vers toi en personne et il te dira « Bon et fidèle serviteur ». Est-ce que vous souhaitez ce matin que Jésus un jour vous dise ces phrases-là ? Bon et fidèle serviteur. C'est mon rêve que le Seigneur puisse me dire ça. Je serais tellement ému, tellement touché, parce que ça viendra de la bouche de Jésus. Pas de la bouche des hommes. Ils ne connaissent pas notre cœur, ils ne savent pas ce qu'on vit, ce qu'on fait. Jésus connaît le cœur, nous on ne connaît pas. Mais ce jour où Jésus viendra, et il dira bon et fidèle serviteur. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux simplement maintenant.